Pour la 58e édition du Salon international de l'agriculture à Paris, l'Occitanie sera mise à l'honneur avec 90 producteurs régionaux qui présenteront leurs produits jusqu'au 6 mars. Afin de comprendre les enjeux auxquels sont confrontés les agriculteurs et éleveurs de notre région, nous sommes en ligne avec Pierre Ginèbre, directeur de l'IRCALIM, l'Institut régional de la qualité agroalimentaire. Bonjour Pierre Ginèbre.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes déjà sur place, hein. Vous me disiez, vous êtes arrivé au Salon de l'agriculture ce week-end. De nombreuses personnalités s'y rendent. Il y a même une délégation d'évêques français qui sera présente aujourd'hui, parmi laquelle Monseigneur Bertrand Lacombe, qui est archevêque d'Auch. Entre nous, Pierre Ginèbre, ce salon, c'est un peu l'endroit où il faut être cette semaine, n'est-ce pas?
Sûrement pour beaucoup de gens, oui. Oui, il faut. Ça a toujours été le Salon de l'agriculture un moment fort de rencontre entre les territoires et les élus, les forces un petit peu de la nation. Donc ça reste quand même toujours dans cette ligne-là.
Et puis ça fait du bien de se retrouver après.
Et ça fait énormément de bien de se retrouver. On est très heureux parce que les gens sont là et se nous posent des questions dans une bonne ambiance, et c'est très bien.
L'IRCALIM est une association trentenaire qui se met au service des agriculteurs, du territoire, des professionnels des métiers de bouche et des syndicats. Pour bien comprendre son action, expliquez-nous en quelques mots, Pierre Ginèbre, quel est son rôle dans notre région?
Alors, il faut comprendre notre agriculture régionale. On a la spécificité en Occitanie, spécificité qu'on partage aussi avec Nouvelle-Aquitaine, d'avoir des productions que, si on ne parle que de volume prix, on n'a aucune de nos productions qui est compétitive. Donc l'idée, en fait, a été, depuis maintenant de nombreuses années, d'accompagner les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires pour aller chercher de la valeur ajoutée autour de produits sous signe officiel de qualité ou de marque collective. Donc on adhère donc à notre association, l'ensemble de ces démarches-là, et nous, on les aide, on les accompagne pour rédiger des cahiers des charges, se structurer, définir des produits et puis adapter les produits aux attentes des consommateurs et des marchés.
Mmh. Avec plus de 60 000 exploitations agricoles et 3 millions d'hectares, la région Occitanie est la première région agricole de France. Nous parlions dans le journal juste avant, évidemment, de la guerre en Ukraine, hein, qui est dans toutes nos pensées, nos esprits, et qui occupe bien l'actualité. Est-ce que ce conflit peut impacter les exportations des produits agricoles de notre région?
De toute façon, il les impactera à plusieurs niveaux. Le premier niveau, l'Ukraine et la Russie, comme la France, sont des pays exportateurs de blé. Donc un conflit sur le blé étant considéré, étant négocié sur des marchés internationaux, on va se retrouver avec des périodes d'incertitude, donc forcément une augmentation des cours de blé. Ça va se traduire chez nous par une augmentation du prix de la baguette, mais ça va aussi se traduire, et ça il faut bien l'entendre, pour certaines parties de notre population, de plus en plus de mal à accéder à l'élément de base, qu'est le pain et qu'est la farine. Donc chez nous c'est ça, et il faut aussi se mettre dans l'idée que pour certains pays l'accès à l'alimentation va devenir vraiment vraiment problématique, surtout sur un produit de base comme le blé. Alors ça c'est le premier souci. Et le second souci, c'est que la Russie est en plus un gros producteur d'une matière première importante en agriculture, qui est l'engrais. Donc sur ces deux paramètres, on peut considérer que ça impactera fortement nos productions, et pas forcément dans le bon sens, et surtout ça impactera derrière le porte-monnaie du consommateur qui était déjà fortement impacté.
Mmh. Malgré l'opération de certains supermarchés d'essayer de mettre un prix très bas pour la baguette, ça ne va pas forcément durer.
Mmh. Non, mais là on a un souci, on a vraiment un énorme souci, parce que le pain Radio Présence le prendra encore plus, mais c'est quand même un fort symbole alimentaire. Mm-hmm. Le prix, et ne pas payer au juste prix le producteur pour pouvoir expliquer aux consommateurs qu'on défend son pouvoir d'achat, il y a quelque chose qui ne va pas là.
Ah oui,
on n'est pas sur des bons repères. Voilà. Donc, L'alimentation ne devrait pas être un produit sur lequel les fluctuations de marché, les fluctuations des uns et des autres devraient influer autant. Ça peut pas continuer.
Oui, ça discrédite la profession et ça lui fait du mal. Le Nutri-Score, ce logo à poser sur les emballages et qui informe sur la qualité nutritionnelle des produits devrait être rendu obligatoire en Europe en 2023. Les fromages de notre région, notamment, sont fortement impactés par ce dispositif. Le Roquefort, pour ne citer que lui, a demandé une exemption. Comment la profession agricole peut-elle s'adapter à cette contrainte?
Alors, c'est très compliqué parce que le Nutri-Score est un outil qui a été mis au point pour des produits ultra transformés. Des barres chocolatées, des céréales de petit déjeuner, des plats surgelés. C'était ça la cible du Nutri-Score. Et l'idée était de faire progresser les compositions de ces aliments-là et d'améliorer ces aliments-là en poussant les industriels à revoir leurs recettes. Ça, c'était l'idée de départ.
Ça partait d'une bonne intention, finalement.
Ça partait d'une bonne intention et que tout le monde approuvait et qui, quelque part, en plus, apportait ses fruits. Et on voit que certaines compositions d'un certain nombre de produits se sont nettement améliorées grâce à l'emploi de ce Nutri-Score. Là où ça devient gênant, c'est quand on essaie d'expliquer qu'il va falloir étendre ce dispositif à tout un tas de produits qui n'ont jamais posé de soucis nutritionnels et qui, souvent, en plus, au contraire, apportent par leur spécificité des qualités particulières. Alors, vous parliez du Roquefort, mais on pourrait parler du Roquefort, de l'huile d'olive, enfin, un certain nombre de produits comme ça qui vont se trouver affublés d'une très mauvaise note, alors qu'en pratique, c'est pas leur consommation raisonnable qui pose souci. Et c'est là où on a beaucoup, beaucoup de mal, et c'est d'autant plus dur à entendre, que les plus mal notés, dans le texte tel qu'il est prévu à l'heure actuelle, ne pourront plus faire de promotion. Ce qui voudra dire qu'on ne pourra plus faire la promotion de l'huile d'olive, du Roquefort, de la tombe des Pyrénées,
des produits de notre terroir.
Voilà, en fait. des jambons secs de Bigorre. Donc là, on a vraiment un souci. Et si vous voulez, c'est un peu, je ne sais pas comment le dire, mais c'est un peu comme à l'école, quoi. Quand on met des mauvaises notes aux bons élèves, c'est quand même un peu embêtant, quand même.
Voilà. Oui, évidemment. Voilà. L'année 2021 a connu son lot de fortes pluies, de sécheresses et aussi de gels tardifs. On l'a vu en avril l'année dernière. Les cultures en Occitanie ont été fortement impactées par ce dérèglement climatique. Comment les exploitations agricoles se relèvent-elles de telles difficultés?
Alors, de plus en plus difficilement parce que les phénomènes sûrement liés au changement climatique, mais les phénomènes ont tendance à s'accélérer et les entreprises ont de plus en plus de mal à s'en remettre. Alors, il existe des dispositifs qui avaient été prévus d'accompagnement de type assurantiel, et on voit que ces dispositifs-là, la répétition de ces événements-là, font que, un, ils sont très compliqués à mettre en œuvre, deux, ils ne remboursent pas quand même la totalité des pertes, et trois, le matériel végétal, si vous parlez des vignes, le matériel végétal souffre énormément de ces successions de sécheresse, de froid intense à des périodes inhabituelles. On pourrait citer la grêle aussi qu'il y a eu il y a quelques années arrière. Tous ces phénomènes en fait fatiguent le matériel végétal et à un moment donné interrogent sur à repenser les exploitations et les filières pour essayer d'avoir des productions plus susceptibles de résister à ce type d'événement. Mais c'est très compliqué, ça demande énormément de réflexion. Et le premier enjeu peut-être de tout ça, parce qu'on va avoir la difficulté qui devient de plus en plus prégnante, c'est la création de réserves d'eau, par exemple, et d'amener d'eau dans les parcelles, parce que là, on a vraiment un enjeu qui devient de plus en plus prégnant dans des zones où, il y a quelques années en arrière, c'était pas suffisant.
Eh oui, donc là, il y a trop de sécheresse et il faut envisager une irrigation plus régulière, en fait, des cultures, c'est ça?
Plus régulière, j'allais dire du côté est de la région, l'irrigation, les Romains avaient construit le pont du Gard pour ça. Quelque part, elle est rentrée dans les mœurs. Oui. Quand on commence à parler de devoir irriguer des zones de plateau de montagne pour créer de la réserve d'eau pour assurer des réserves végétales ou des protéines végétales, on est sur des contextes qui ont un petit peu changé quand même pour l'ouest de la région.
Oui, ça inquiète forcément. Les consommateurs semblent plus attentifs depuis quelques années à ce qui se trouve dans leur assiette et c'est plutôt une bonne nouvelle. Plus exigeants quant à la qualité des produits, ils réclament des produits bio, des produits locaux développés dans des circuits courts. Comment les agriculteurs et les éleveurs Kirkalim accompagnent s'adaptent-ils à ces exigences?
Alors, si vous voulez, il y a deux types d'exigences. Il y a pour l'agriculteur, il y a les exigences donc du consommateur, mais aussi les exigences du citoyen. Et parfois l'agriculteur, il est un peu perdu entre des attentes différentes et des problématiques qui peuvent même parfois être complètement opposées. On en parlait tout à l'heure. D'un côté, le citoyen va dire, on veut aller vers des pratiques agricoles de plus en plus respectueuses de l'environnement, voilà. Et par contre, à un moment donné, qui vont toutes se traduire par un coût plus élevé. Et par contre, il peut être aussi sensible au fait de dire à un moment donné, moi, ce que je veux, c'est des baguettes pas chères et je vais aller l'acheter chez un célèbre distributeur qui fait la promotion de ces produits-là. Donc, on est quand même parfois un petit peu perdu entre des attentes qui sont tout à fait normales et qui parfois se contredisent, et ça, c'est assez compliqué. Par contre, la solution pour bien manger, c'est ça, moi, peut-être la nouveauté la plus qui nous rend optimistes, qui nous rend un peu. C'est que depuis quelques années, on s'aperçoit que le consommateur met un petit peu plus d'argent sur l'alimentation. Et ça, c'est un point de plus en plus positif. Ça permet, ces quelques centimes de plus qui sont dépensés sur l'alimentation, permettent quand même de se dire, bon, mais peut-être que le consommateur a compris qu'il y a un lien entre sa capacité à mettre un peu plus cher et la capacité des agriculteurs à répondre à ses attentes.
Et ça se répercute sur la rémunération des agriculteurs, ou est-ce que ça va dans la poche des intermédiaires, des distributeurs et des commerçants?
Alors, ce qu'on espère, c'est que ça se répercute dans la poche des agriculteurs et dans nos démarches de filière. C'est pour ça que l'important, c'est vraiment la notion de filière dans nos produits. C'est effectivement qu'à la fin, il en revienne un petit peu, y compris aux producteurs, ce qui parfois n'est pas tout à fait le cas.
Oui, parce que justement, puisque nous parlons de rémunération, il y a cette loi dite EGalim 2 qui a été promulguée le 18 octobre 2021, qui vise à protéger la rémunération des éleveurs et des agriculteurs et qui cherche à leur donner les moyens de se projeter sur plusieurs années avec des perspectives de prix mieux maîtrisées. Est-ce que cette loi va dans le bon sens pour cette profession?
Toute loi qui met en avant ce problème-là et qui essaie d'apporter des solutions va dans le bon sens. Est-ce qu'elle va assez loin? On est vraiment sur la fin des discussions maintenant, des discussions sur les prix avec les distributeurs. On fera le bilan d'ici quelques semaines et on verra exactement ce qui s'est passé. Mais il y a à craindre que cette loi, même si elle est favorable et si elle améliore les choses, n'ira peut-être pas assez loin pour permettre de mieux équilibrer les relations entre l'amont et l'aval. Ça, c'est évident. Donc, je crains que ça soit pas simple, surtout dans une période inflationniste où tout le monde a bien compris qu'il allait falloir qu'à un moment donné, accompagner de plus fermement les agriculteurs et les industries agroalimentaires.
Pour terminer, Pierre Ginèbre, est-ce que vous nous diriez que la profession agroalimentaire de notre région va bien?
Alors, elle va pas trop mal. Et je vais citer deux faits qui me font dire qu'elle va pas trop mal. D'abord, depuis 2 ans, on a des taux d'installation d'agriculteurs un peu supérieurs à ce qui se passait avant. On voit que peut-être on installe un petit peu plus de jeunes agriculteurs. Ça, c'est le premier point positif. Le deuxième point positif, c'est que l'on voit de plus en plus le développement de circuits courts, de circuits courts et de filières de proximité qui nous font dire quand même qu'il y a une dynamique, surtout dans notre région, qui est quand même relativement intéressante. Après, est-ce que ce sera suffisant? Sûrement pas. Est-ce qu'il faut continuer à l'accompagner? Sûrement. Et la grande question qui va se poser maintenant très vite, c'est ce développement, comment on le maintient dans les territoires? Et pour ça, il n'y a pas 50 solutions, c'est en passant par des filières qui restent territorialisées.
Voilà. C'est tout l'enjeu à venir. Des filières territoriales. Merci beaucoup, Pierre Ginet. Vous êtes le directeur de l'IRCALIM, l'Institut régional de la qualité agroalimentaire. Bon salon de l'agriculture.
Merci, Isabelle.